Ce matin, la plupart d'entre nous ont eu un accueil un peu particulier pour notre sécurité, et il est normal que la puissance publique s'en occupe. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui nous accueille pour nous donner la paix avec chacun d'entre nous, la paix, la sécurité de notre vie avec lui. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous as invités ce matin. Tu nous réunis maintenant en Église. Tu es présent avec nous pour nous parler. Amen. Nous pouvons chanter le spontané « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Oui, Seigneur, nous te louons. Tu es celui qui travaille en nous. Et sans toi, que pourrions-nous faire? Tu es celui qui repose en nous. Et hors de toi, comment trouver la vraie paix? Tu es celui qui parle en nous. Et sans ta parole, quel sens aurait ce que nous disons? Tu es aussi celui qui se tait. Et de ton silence, nous avons beaucoup à apprendre. Tu es, Seigneur, l'horizon, le but, l'avenir vers quoi nous tentons de nous tourner. Tu es, et nous osons t'appeler Dieu, ce tout, ce vis-à-vis, ce présent. Tu es. Cela suffit pour notre vie, notre raison d'être et notre joie. Tu es et nous te louons. Je vous invite à continuer cette louange dans le psautier français, le psaume 116, la version B. Nous chanterons les strophes 1, 6 et 7 de ce psaume. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Voici l'horizon du voyage. Et pour chemin, le Christ de toute miséricorde. Soit que nous adorions, soit que nous offrions aux passants le verre d'eau de l'Évangile, c'est au nom de l'amour. L'adoration et l'activité humaine ne seraient rien sans cette quête unique et patiente. Amen. Présentons-nous devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disions « Aie pitié de nous ». Amen.
J'aime mon Dieu, il entend ma voix.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule consolation, vraiment la seule, et suffisante à jamais, c'est que nous ont devancé une tendresse et un pardon inépuisables. Dieu s'est fait visage. Nous ne sommes qu'au commencement des choses. Marchons jusqu'au jour où son amour sera parfait en nous. Chantons notre reconnaissance. Comme confession de foi ce matin, je vous propose un texte écrit par nos synodes nationaux réformés et luthériens en 2005, en conclusion d'un débat qui avait eu lieu dans nos églises sur la question « Confesser Jésus-Christ dans une société laïque, qu'est-ce qui fait autorité dans notre vie ?» Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu pour servir et non pour être servi. Reconnaître son autorité, c'est d'abord accepter de se laisser servir par lui. Il nous donne la liberté, la confiance, le courage pour être comme pour agir. Nous croyons en Jésus-Christ. Il nous libère de notre désir d'exister par nous-mêmes ou en fonction des autres et de chercher ainsi l'assurance de notre valeur. Grâce à son autorité, nous ne sommes plus le centre de nous-mêmes. Il donne à notre vie une dignité et une identité que nous n'avons plus à conquérir. Nous croyons en Jésus-Christ. Il a vécu de la parole du Père. Son autorité est créatrice et elle nous fait grandir dans notre humanité. Son autorité ne contraint pas, elle construit des relations de confiance. Elle est crédible et légitime. Amen. J'ai choisi pour ce matin trois lectures bibliques. La première dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, dans cet ensemble de textes réunis sous le titre de premier discours de Moïse. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi. Depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre, interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand? A-t-on rien entendu de pareil? Est-il arrivé à un peuple d'entendre comme toi la voix d'un Dieu parlant du milieu du feu et de rester en vie? Ou bien est-ce que un Dieu a tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes et des prodiges, par des combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs, à la manière de tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Égypte, sous vos yeux? Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et dans ce texte, je souligne ces simples mots « reconnais ». Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, cette parole de Jésus au verset 12 de ce chapitre. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite, et là on peut traduire aussi « celui qui m'accompagne », le mot grec, c'est le mot qui a donné en français le mot « acolyte », le compagnon qui suit. « Celui qui m'accompagne ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Et enfin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, ce chapitre bien connu qui commence par l'évocation du culte spirituel, ces versets. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et dans la suite de ce chapitre, parmi toutes les exhortations, je souligne celle-ci. Bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Je vous invite à chanter dans le recueil Louanges et prières le cantique 179, les strophes 1, 2, 3. Nous t'invoquons, ô grand Dieu. Seigneur, donne-nous ton esprit pour non seulement aimer l'Évangile, contempler l'Évangile, apprendre l'Évangile, vivre l'Évangile, souffrir l'Évangile. Mais encore, avec notre chair et notre sang, continuer l'Évangile. Amen. Un petit mot personnel tout d'abord, pour vous dire merci, chers amis de l'oratoire, de nous avoir accueillis, mon épouse et moi, à votre culte pendant ces dernières années, lors de nos séjours parisiens. Ce sera, et d'avoir aussi, m'avoir fait l'amitié de me confier plusieurs fois la prédication. Ce sera sans doute aujourd'hui la dernière occasion, puisque je vais transmettre cette semaine la présidence de la Fondation Diaconesse de Reuilly, qui était la cause de ces séjours parisiens. Et je voudrais partager avec vous ce matin ce que j'ai reçu dans ces derniers engagements à la Fondation Diaconesse de Reuilly, comme à la Fondation John Bost, et même mon dernier poste de président du Conseil national quand nous préparions la création de l'Église protestante unie. Et je le ferai avec trois mots qui me semblent importants pour notre compréhension de l'Évangile et de la mission de notre Église aujourd'hui. Trois mots que vous avez certainement déjà entendus dans mes prédications précédentes et que vous avez retrouvés dans les lectures bibliques que je viens de faire. Reconnaître, accompagner, bénir. Reconnaître, parce que comme Israël, nous sommes exhortés à reconnaître Dieu, mais aussi à reconnaître l'autre et à reconnaître les signes des temps. Accompagner, parce que nous sommes appelés à être les compagnons, les acolytes de Jésus, à le suivre et à le servir parmi les humains, dont nous sommes aussi les compagnons. Bénir enfin, parce que nous avons reçu la bénédiction de Dieu, sa parole de bien pour nous, et que nous avons à transmettre cette parole, cette bonne nouvelle. C'est un lieu commun que de parler de notre époque comme d'un temps d'incertitude et de recherche, un temps tendu entre inquiétude et espérance. Les progrès des sciences et des techniques qui sont aujourd'hui à notre disposition, comme ceux qui se profilent dans un avenir proche, nous ouvrent des possibilités nouvelles et nous placent en même temps devant de nouvelles questions fondamentales sur la vie, la mort, l'être humain, sa liberté, ses droits, sa dignité. Sans doute sommes-nous
la première génération où chacun peut réclamer raisonnablement le droit de décider pour ce qui concerne sa vie, au lieu d'être seulement soumis à des obligations, des nécessités ou des fatalités. Une situation nouvelle qui peut faire espérer une vie meilleure, une vie plus libre, plus riche, plus vraie, mais qui peut aussi nous inquiéter à cause des risques et des responsabilités que nous sommes amenés à prendre. Et beaucoup d'entre nous se posent des questions. Sommes-nous en train de participer à la naissance d'une civilisation nouvelle ou à la fin d'une humanité qui se détruit elle-même? Ces questions divisent notre société, parfois nos familles ou nos cercles amicaux. Elles envahissent nos débats politiques et elles deviennent de plus en plus séparatrices, en particulier dans les religions et les églises. Et elles y posent de plus, de manière nouvelle, la question de leur place et de leur rôle dans une société laïque, mais aussi de leur autorité spirituelle et de leur mission. Et c'est sur ce point que je voudrais vous proposer quelques réflexions, discutables bien sûr, mais qui me semblent rendre compte du message biblique tel que nous pouvons le recevoir en Christ, avec l'intelligence de son esprit. Dans ce monde-là, me semble-t-il, notre part de mission, c'est d'abord de reconnaître. Reconnaître, c'est bien sûr ouvrir les yeux sur celles et ceux qui nous entourent, sur l'actualité, mais aussi sur l'avenir. Essayer de discerner ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire essayer de comprendre, en ouvrant nos cadres de pensée, en dépassant nos habitudes, en franchissant nos barrières. C'est porter sur les autres et sur le monde le regard de Jésus. Ce regard, quand il s'approchait de celles et ceux que les autres rejetaient, pour mauvaise conduite, impureté, traîtrise, la femme adultère, Zachée, la cananéenne, la samaritaine, le larron en croix à côté de lui, comme cette pécheresse inconnue dont il a fait sa première apôtre et dont je vous avais parlé il y a 2 mois. C'est cette vision plus large et plus profonde quand il dénonce comme sépulcre blanchi les pratiques religieuses que l'on vénérait, quand il conteste l'usage de la loi pour la soumission tatillonne, ou quand il annonce le royaume proche est déjà là, parmi les humbles, les doux, ceux qui pleurent ou sont persécutés. Reconnaître, c'est donc s'ouvrir à l'autre et à l'inconnu, en acceptant de ne pas tout savoir, pas tout pouvoir, pas tout maîtriser. Bref, reconnaître, c'est accepter de ne pas être Dieu. Car reconnaître, c'est fondamentalement reconnaître Dieu. Le reconnaître en entrant dans la démarche de Jésus, en se débarrassant des idées toutes faites, des doctrines arrêtées, des traditions incontestables, jusqu'à le reconnaître dans l'absolue non-puissance du serviteur mort sur la croix et dans l'absolue victoire de la mort, de la vie et de l'amour au matin de Pâques. Reconnaître Dieu contre l'idole, contre les puissances qui prétendent obliger, soumettre, contraindre au sacrifice, contre même nos propres images de Dieu, qui nous sont néanmoins nécessaires, dont nous avons besoin pour le rencontrer, mais qui deviennent des idoles si nous nous y arrêtons ou si nous voulons l'y enfermer. Reconnaître, c'est la démarche de foi qui est toujours disponible, qui toujours écoute, qui toujours découvre et espère et se réjouit de ce qu'elle reçoit. Soyez des reconnaissants, écrivait l'apôtre aux Colossiens en des temps pourtant déjà difficiles. Reconnaissants parce que nous avons été reconnus. En recherche parce que nous avons été recherchés. Les yeux grands ouverts parce que nous avons été regardés. Reconnaissants. Pas seulement un sentiment de gratitude, mais un programme de vie. Reconnaître donc pour accompagner. Notre part de service dans les recherches et les bouleversements de notre actualité, c'est d'y accompagner Jésus. Et avec lui, de servir les hommes et les femmes de notre temps en vue de leur salut, c'est-à-dire de leur vie. Pas de les juger, pas de les diriger, mais de les servir à salut. C'est là la façon de vivre le message évangélique et de témoigner de ce message de la justification par la foi et non par l'application d'une loi, fût-elle divine. Accompagner Jésus, c'est accepter d'aller avec lui sur le chemin de vie de l'autre, le rencontrer, le respecter, accepter d'entendre ses attentes, ses désirs et ses peurs, d'écouter ses choix sans les lui interdire a priori. Bien sûr, quand on accompagne, on peut aussi avertir des dangers. On peut discuter le chemin suivi ou aider à le retrouver si on s'est perdu. Mais c'est d'abord, accepter d'être avec. Mais accompagner, c'est aussi mettre en œuvre notre liberté. Être libre de dire les chemins qu'on ne veut pas prendre. Être libre aussi, parfois, d'aller un peu plus loin sur le chemin de l'autre que ce que l'on aurait pensé faire. De s'y hasarder avec lui pour le servir. Accompagner, enfin, ce n'est pas seulement accompagner des démarches individuelles, mais aussi s'inscrire dans des démarches de société, c'est-à-dire d'abord en être fondamentalement solitaire, même si nous avons à interroger des évolutions, à critiquer des injustices, mais aussi proposer une écoute, une attention, une parole. Accompagner, c'est donc dialoguer, écouter et parler. Notre mission, nous la concevons et nous la vivons dans le dialogue, non pas dans le monologue sourd et insensible qui récite une vérité dont nous serions les seuls détenteurs, mais le témoignage et le service dialogué, à l'écoute, engagé. En acceptant de recevoir la parole de l'autre, d'y consentir, de la faire mienne, pour que la parole que nous pourrons partager ne lui soit pas étrangère. Le plus difficile dans l'accompagnement, ce n'est pas d'accompagner, mais c'est d'accepter d'être accompagné. D'accepter de ne pas me diriger seul sur mon chemin, d'y faire place aux autres, d'y mettre ma liberté au service des autres, parfois d'y dépendre des autres. Quand je suis faible,
et que j'ai besoin d'un accompagnement, certes. Et ce n'est pas facile d'accepter ce besoin des autres dans une société qui stigmatise la dépendance. Mais aussi quand je me crois fort, car même les forts ont besoin de l'accompagnement des plus faibles pour creuser le sens de leur vie. Accompagné par les autres, accompagné par Dieu, qui se propose comme notre compagnon en Jésus-Christ. Reconnaissant parce que nous avons été reconnus, compagnons parce que Dieu nous a accompagnés, pour porter une parole de bénédiction. Notre actualité, nos médias, nos conversations privées même, bruissent de tant de paroles de malédiction. Petites ou grandes. Car la malédiction, c'est tellement facile. Dire le mal, dénoncer le mal, soupçonner le mal, propager la nouvelle du mal. Cette profusion de paroles de malheur qui amplifie le mal, qui multiplie son impact et sa puissance et qui nous met sous sa domination, la domination de la peur de l'autre, la peur de demain, et qui fait de nous de perpétuels méfiants, des soupçonneux par principe, des déçus d'avance. Je ne veux pas parler, bien sûr, de la parole qui essaie de discerner la vérité de la situation, mais de la parole qui crée de la menace ou de la violence. La parole qui se plaint déjà, avant qu'il y ait des motifs de se plaindre, de toutes ces paroles répétées, amplifiées, ressassées, qui font de nous les colporteurs du malheur, au lieu d'être les témoins et les acteurs de l'espérance. L'Évangile est une bonne nouvelle, une parole qui dit du bien, qui est pour le bien. L'Évangile est une parole qui libère, qui construit, qui rend responsable. L'Évangile est une bénédiction, pas une malédiction. Là, je crois, est notre part particulière de mission aujourd'hui. Même si l'ambiance est au pessimisme, surtout si l'ambiance est au pessimisme. Non pas parce que nous serions plus intelligents que les autres, ou plus malins, ou plus crédules, mais parce que la parole de Dieu qui nous est donnée est une parole de bénédiction. Reconnaître, accompagner, bénir. Est-ce là une rêverie idéaliste, un aveuglement dangereux, une ambition déraisonnable pour nos forces limitées? Participer à la mission de Dieu suppose toujours le changement, notre propre changement, le changement qui naît de l'écoute de la parole, de la rencontre avec le Christ vivant par son esprit. Cette conversion qui bouleverse notre regard, qui fait de notre faiblesse une puissance, de notre fragilité une assurance, de nos besoins d'être aimés une force d'amour. Amen. Je vous propose de chanter comme notre prière, le numéro 72 sur le recueil Louanges et prières, Éternel Dieu, Éternel Roi, croire en toi, c'est la vie. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce numéro 72.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus malgré les tribulations de ce matin et malgré la chaleur accablante, mais au moins nous pouvons venir ici pour nous rafraîchir dans ces murs de l'oratoire du Louvre et aussi nous rafraîchir à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui libère, comme l'a dit le pasteur Marcel Manoël, que j'en profite pour remercier immédiatement. Alors nous espérons tous évidemment que ce ne sera pas vraiment la dernière fois qu'il viendra prêcher, mais qu'il y aura l'occasion peut-être plus rare, l'envie, le goût et l'invitation de venir nous faire profiter de ces très belles prédications. J'en profite aussi pour remercier à l'orgue David Cassan et également Meudelin qui filme toujours ces cultes et qui permet de faire en sorte qu'ils soient vus pas simplement par les paroissiens de l'oratoire mais dans toute la France, j'ose pas dire dans le monde entier, mais qui sait. Alors, pour les activités de la semaine, elles vont être assez... alors j'allais dire assez simples, elles ne sont pas simples, mais elles sont assez réduites. Le lundi 24 juin, Hébreux bibliques pour avancer, de 19h à 21h par Christophe Simienski, en salle Verne. Le mardi 25 juin, c'est un nouveau débat du cycle Société en débat, de 20h à 21h30. Et Christine Prieto, bibliste, auteur, viendra présenter une conférence intitulée « Maladie et guérison dans l'Antiquité et dans la Bible ». Et c'est une soirée organisée et animée par les pasteurs Béatrice Cléromazir et Jean-Pierre Rive. C'est une entrée libre, évidemment. Et là aussi, c'est en salle Verne, puisque la salle Mono est en travaux. Et enfin, dimanche prochain, le 30 juin, évidemment le culte à 10h30, enfin en espérant que cette fois-ci soit vraiment à 10h30, par le pasteur Béatrice Cléromazir, avec à l'orgue Aurélien Péter. Alors, comme je le disais, puisqu'il y a des travaux, il n'y aura pas de garderie. Ce culte, néanmoins, sera suivi d'un verre de l'amitié, avec accueil dans la grande sacristie, et je vous rappelle que chacun est le bienvenu. Il y aura également une vente de gâteaux à la sortie du culte par les éclaireuses Koala, pour financer du matériel de camp d'été. C'est désormais l'heure de l'offrande, donc soyez généreux pour que toutes ces belles activités puissent perdurer.
Intercéder, c'est d'une certaine manière s'identifier à l'autre à tel point que naisse en nous la compassion, car la compassion ouvre à la prière. Intercéder, c'est d'une certaine manière être prêt à ce que le don de nous-mêmes soit la réponse de Dieu pour celles et ceux que nous lui avons présentés. Intercéder, c'est d'une certaine manière apprendre Dieu, apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante, et plus encore, apprendre quel amour souffre avec nous lorsque nous souffrons. Sinon, que serait ce Dieu auquel nous nous adressons? Prions. Seigneur, nous intercédons les uns avec les autres et les uns pour les autres et pour toutes celles et ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés, pour celles et ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs, pour tous les humains, en particulier les douloureux, les solitaires, les accablés au cœur lourd. Pour eux tous, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour notre peuple, pour tous les peuples dans leur marche vers le royaume que nous attendons. Pour notre Église et pour toutes les Églises, pour ceux qui savent ton amour, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui te méconnaissent, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Et tous nos cœurs, unis dans la même foi en toi et la même consécration à ton service, élèvent vers toi, dans la communion de l'Église universelle, la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et comme on voit ce matin, je vous propose encore un extrait de la règle de Rui que j'ai beaucoup utilisé dans la liturgie de ce culte. Deviens vivant et reste vivant. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à chaque instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères. Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps à tout instant se modifient et l'ordre du monde se découvre sans cesse. Comment la vie divine que t'infuse l'esprit serait-elle moins créatrice? Avance, avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclos dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre. Laisse-toi gagner par l'admiration et connaît avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est ce Dieu d'amour qui vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Vivez en reconnaissant. Amen.